Nous revînmes à la pièce précédente, qui avait deux sorties, prîmes celle que nous n'avions pas encore essayée, passâmes dans une nouvelle pièce et nous retrouvâmes dans la salle heptagonale de départ. « Comment s'appelait la dernière pièce d'où nous avons rebossé chemin ?» demanda Guillaume. Je fis un effort de mémoire. « Écus albus. » « Bien, retrouvons-la. » Et ce fut facile. De là, si on ne voulait pas revenir sur ses pas, il n'y avait qu'à passer à la pièce dite « Gratia vobis et pax », et de là à droite, il nous sembla découvrir un nouveau passage, qui ne nous obligerait pas à faire marche arrière. En effet, nous trouvâmes encore « In diebus illis » et « Primogenitus mortuorum ». Étaient-ce les mêmes pièces que nous venions peu auparavant de traverser ? Mais nous parvînmes enfin dans une pièce que nous n'avions pas l'impression d'avoir encore visitée. « Tertia pars terrae combustia est ». Cependant, arrivés là, nous ne savions plus où nous étions par rapport à la tour orientale. Ma lampe tendue à bout de bras, je m'aventurai dans les pièces suivantes. Un géant, de proportions menaçantes et au corps onduleux et fluctuant comme celui d'un fantôme, vint à ma rencontre. « Un diable ! » criai-je, et il s'en fallut de peu que la lampe m'échappât alors que je faisais une brusque volte-face et me réfugiais dans les bras de Guillaume. Celui-ci me prit la lampe des mains et, m'écartant, s'avança avec une décision qui me parut sublime. Il vit lui aussi quelque chose parce qu'il recula soudainement. Puis il s'avança de nouveau et éleva la lampe. Il l'éclata de rire. « Vraiment ingénieux ! Un miroir !
Un miroir ?
Oui, mon vaillant guerrier, tu t'es lancé avec tant de courage sur un ennemi véritable il y a peu dans le scriptorium, et maintenant tu as peur devant ta propre image.
Un miroir qui te renvoie ton image grandie et déjetée. »
Il me prit par la main et me conduisit en face de la paroi qui regardait l'entrée de la pièce. Sur une plaque de verre ondulée, maintenant que la lampe l'éclairait de plus près, je vis nos deux images grotesquement altérées qui changeaient de forme et de hauteur selon qu'on s'approchait ou qu'on s'éloignait. « Il te faudra lire aussi quelques traités d'optique, » dit Guillaume amusé, « comme ont dû sûrement lire les fondateurs de la bibliothèque. »«
Les meilleurs sont ceux des Arabes. »
Alhazen composa un traité De aspectibus, où avec des démonstrations géométriques précises, il a parlé de la force des miroirs. Certains d'entre eux, selon la façon dont est modelée leur surface, peuvent agrandir les choses les plus minuscules, et en va-t-il autrement de mes verres, d'autres font apparaître les images renversées. Ou oblique, ou montre deux objets au lieu d'un, ou quatre au lieu de deux. D'autres encore, comme celui-ci, font d'un nain un géant ou d'un géant un nain.
« Seigneur Dieu, dis-je, ce sont donc là les visions qu'on dit avoir eues dans la bibliothèque ?»«
Peut-être. Une idée vraiment ingénieuse. » Il lut le cartouche sur le mur au-dessus du miroir. « Supertronos viginti quatuor. » Nous l'avons déjà trouvé, mais c'était une salle sans miroir, et celle-ci, entre autres, n'a point de fenêtre, tout en étant heptagonale. Où sommes-nous ?
Il jeta un regard circulaire et s'approcha d'une armoire. Atso, sans ces sacrés oculi ad legendum, je ne parviens pas à comprendre ce qui est écrit sur ces livres. Lis-moi quelques titres.
Je pris un livre au hasard.
Maître, il n'est pas écrit.
Comment ? Je vois qu'il est écrit, que lis-tu ?
« Je ne lis pas.
Ce ne sont pas des lettres de l'alphabet, ça n'est pas du grec, je le reconnaîtrais. On dirait des vermisseaux, des serpenteaux, des chures de mouches. »«
Ah, c'est de l'arabe.
Il y en a d'autres comme ça ?»«
Oui, plusieurs, mais en voilà un en latin. S'il plaît à Dieu, al-Khwarizmi, tabulae. »«
Les tables astronomiques d'al-Khwarizmi ?» Traduite par Adélard de Bath, ouvrage d'une grande rareté, continue.
Isa ibn Ali, de oculis. Al-Kindi, de radis telatis.
À présent, regarde sur la table. J'ouvris un grand volume qui se trouvait sur la table. Un de bestis. Je tombai sur une page finement enluminée où était représenté un très bel unicorne. « Belle facture !» commenta Guillaume, qui réussissait à bien voir les images. « Et celui-ci ?»
Je lus. « Liber monstrorum de diversis generibus. »
« Celui-là aussi, avec de belles images. » mais elle me semble plus ancienne. »
Guillaume inclina son visage sur le texte. « Enluminée par des moines irlandais, il y a au moins 5 siècles. Le livre de l'unicorne est en revanche beaucoup plus récent. Il me paraît de facture française. » Une fois de plus, j'admirais la science de mon maître. Nous entrâmes dans la pièce suivante et parcourûmes une enfilade de 3 pièces, toutes avec fenêtres et toutes pleines de volumes en langues inconnues, plus quelques textes de sciences occultes, et nous arrivâmes à un mur qui nous contraignit à revenir sur nos pas, parce que les 5 dernières pièces pénétraient les unes dans les autres sans nous offrir d'autres sorties. D'après l'inclinaison des murs, nous devrions être dans le pentagone d'une autre tour, dit Guillaume. Pourtant, il n'y a pas de salle heptagonale centrale. Peut-être nous trompons-nous ? Mais les fenêtres, dis-je. Comment peut-il y avoir tant de fenêtres ? Impossible que toutes les pièces donnent sur l'extérieur. Tu oublies le puits central. Quantité de verrières que nous avons vues sont celles qui donnent sur l'octogone du puits. S'il faisait jour, la différence de la lumière nous dirait quelles sont les verrières extérieures et quelles les intérieures. Et peut-être même nous révélerait la position de la pièce par rapport au soleil. Mais la nuit, on ne relève aucune différence. Revenons en arrière. Nous revînmes dans la pièce du miroir et nous repliâmes vers la 3e porte par laquelle il nous semblait n'être pas encore passé. Nous vîmes devant nous une enfilade de 3 ou 4 pièces et vers la dernière nous entrevîmes une lueur.
« Il y a quelqu'un !» m'exclamai-je d'une voix étouffée.
« S'il y a quelqu'un, il a déjà vu notre lampe, » dit Guillaume en couvrant cependant la flamme de sa main. Nous restâmes sans bouger 1 minute ou 2. La lueur continuait à osciller légèrement, mais sans qu'elle se fît plus forte ni plus faible.
« Ce n'est peut-être qu'une lampe, » dit Guillaume, « de celle qu'on place pour convaincre les moines que la bibliothèque est habitée par les âmes des trépassés. Mais il faut en avoir le cœur net. Toi, reste ici en couvrant la lampe, moi, je vais de l'avant avec prudence. »
Encore honteux de ma piètre figure devant le miroir, je voulus me racheter aux yeux de Guillaume.
« Non, j'y vais, moi, » dis-je. « Vous, restez ici. » À peine me rendrai-je compte qu'il n'y a point de risque, je vous appellerai. »
Aussitôt dit, aussitôt fait. J'avançai à travers 3 pièces, en rasant les murs, léger comme un chat ou comme un novice qui descendrait aux cuisines voler du fromage dans la dépendance, entreprise où j'excellais à Melk. J'arrivai au seuil du lieu d'où provenait la lueur, très faible, en me glissant à l'abri de la colonne qui servait de porte-endroit, et je lorgnai dans la pièce. Il n'y avait personne. Une espèce de lampe était posée sur la table, allumée. Elle charbonnait. Ça n'était pas une lampe comme la nôtre. Elle ressemblait plutôt à un encensoir découvert. Elle ne faisait pas de flamme, mais une cendre légère couvait en brûlant quelque chose. Je me fis courage et j'entrai. Sur la table à côté de l'encensoir se trouvait ouvert un livre aux couleurs vives. Je m'approchai et aperçus sur la page 4 bandes de couleurs différentes, jaune, cinabre, bleu turquin et terre brûlée. S'y détachait une bête horrible à voir, un grand dragon avec 10 têtes qui de sa queue entraînait à sa suite les étoiles du ciel et les faisait s'abîmer sur la terre. Et soudain, je vis le dragon se multiplier et la matière cornée de sa peau devenir comme une selve de plâtre rutilante qui se détachèrent de la feuille et vinrent tourner autour de ma tête. Je me renversai en arrière et vis le plafond de la pièce qui s'inclinait et descendait sur moi, puis j'entendis comme le sifflement de 1000 serpents, mais pas effrayant, quasi séduisant, et une femme apparut, nimbée de lumière, qui approcha son visage du mien jusqu'à me faire sentir son souffle. Je l'éloignai de mes mains tendues et j'eus l'impression que mes doigts touchaient les livres de l'armoire d'en face, ou que ceux-ci grandissaient démesurément. Je ne me rendais plus compte où j'étais et où était la terre et où le ciel. Je vis Béranger au centre de la pièce, qui me fixait avec un sourire odieux ruisselant de luxure. De mes mains je me couvris la face et mes mains m'apparurent comme les pattes d'un crapaud visqueuses et palmées. Je criai, je crois, sentis un goût acidulé dans ma bouche. Puis je m'effondrai dans une nuit infinie qui semblait s'ouvrir de plus en plus sur moi. Et plus rien ne sut.